Voilà, j'ai reçu dans la prière que je devais parler de la gestion du temps, gestion de notre temps. Alors, c'est un paradoxe, mais il semblerait, d'après les statistiques, que les chrétiens sont en moyenne plus stressés par le temps que les autres. C'est un paradoxe, parce que ça ne devait pas être le cas, mais... Voilà, d'après ceux qui se sont penchés sur la question, c'est pourquoi ? Ben, déjà parce qu'ils prennent leur travail au sérieux, ce qui est une qualité. Donc s'ils sont plus stressés, c'est parce qu'ils travaillent plus que les autres, ou tout au moins plus sérieusement. Donc l'application au travail est plus importante, puisqu'ils prennent ça au sérieux. Ils ont aussi à cœur de consacrer du temps à leur famille, ce qui là aussi est une... une bonne chose, voilà, qui est pas du tout négatif, au contraire, positif, mais ça prend du temps. Se consacrer, ça veut dire prendre du temps pour la famille. Ils ne négligent pas leur maison non plus, hein, et Tite, chapitre 2, verset 5, le recommande de ne pas négliger sa maison, voilà, que la maison soit en ordre, etc. Ça prend du temps. Et puis en plus, ils donnent du temps à l'église. À leur vie d'église. Et en plus, ils se soucient des autres, puisque voilà, l'exhortation chrétienne, c'est de ne pas se regarder à son nombril, de regarder les autres. Voilà. Donc tout ça, c'est facteur de temps, d'énergie. Ça prend de l'énergie et ça stresse, parce que voilà, notre agenda est rempli, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, etc. Là, Michel était avec sa sœur, là, à Rouen, et puis avec des chrétiens d'une grande église, celui avec lequel il discutait disait, il s'est aperçu que les chrétiens qui sont dans la chorale, ils sont aussi à l'école du dimanche, ils sont aussi à l'accueil, ils sont aussi à la librairie, et parfois quand il dit, il y a une répétition, ils disent, maintenant je suis là. Bon, là, ils découvrent aussi qu'à l'intérieur de l'église, souvent ça tombe aussi sur les mêmes. Donc du coup, la charge augmente, c'est pour ceux qui sont sérieux, ceux qui veulent être là, vous voyez. Donc je dirais, à la limite, le problème de la gestion du temps se pose beaucoup plus encore pour ceux qui sont partout et qui sont sollicités. Donc c'est pas mauvais, c'est très bon, mais en même temps, ça pose un problème de stress qu'il faut gérer. Donc comment gérer notre temps ? Alors, je dirais que pour comprendre la gestion du temps, il faut d'abord savoir ce que c'est que le temps, avant de passer à l'application pratique. Donc, il y a trois visions du temps, je dirais, qu'on peut énoncer. La vision du temps par rapport à l'homme, le chronos. Alors le chronos, je suis désolé, notre langue vient du grec, donc on est obligé de se reporter au grec. Le chronos, qui vient de chronomètre, qui est utilisé dans le sport pour savoir le nombre de secondes, etc. Donc le chronomètre, qu'est-ce qu'il y a comme autre mot ? Chrono, chronophage, chronologie, voilà. Donc vous voyez, tous ces mots français sont issus de chronos. Et le chronos, c'est le temps, mais c'est quel temps ? C'est ce temps-là, c'est ça. Ça, c'est le chronos. Ouais. C'est impersonnel, c'est intemporel, ça n'a pas de saveur, c'est juste. Pardon ? C'est le temps qui passe, c'est les secondes qui passent. Voilà, secondes qui passent. Donc on peut être dans le temps, et l'homme est dans le temps, des secondes qui passent. Vous, moi, tout le monde, on naît et on meurt. Donc le temps qui passe avant, c'était ça. Pendant, c'était ça. Et après, ce sera ça. Oui. Donc c'est le temps qui s'écoule. Un peu comme de l'eau, quand vous ouvrez le robinet, il s'écoule. C'est le temps qui s'écoule. Donc là, c'est le temps de l'homme, le temps chronos. Alors la Bible compare la vie de l'homme à une fleur, à une vapeur. Si on prend un exemple, il y en a beaucoup, dans le psaume au chapitre 103, verset 14, l'Éternel sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs, car le vent passe dessus et elle n'est plus. Et en son lieu, ne la reconnaît plus. Ce psaume est repris ensuite dans les épîtres, hein, l'épître de Paul, qui le rappelle. Hein, voyez, donc, c'est pour ça qu'en théologie, on dit que la Bible s'explique par la Bible. Voilà, parce que le Nouveau Testament reprend des textes de l'Ancien Testament et les confirme. Et il utilise ça pour montrer qu'il y a une sorte de vanité dans ce temps qui s'écoule. Une vanité de croire qu'on est dans une histoire particulière. C'est vrai qu'on est particulier parce qu'on a conscience de soi, mais en même temps, on est comme cette fleur qui grandit, qui est très belle et ensuite après qui fane. Voilà. Donc c'est une sorte de vanité. Il ne faut pas qu'on croie qu'on est supérieur à qui que ce soit. Ce qui nous donne le sens de notre existence, c'est Dieu. C'est pas notre humanité. Et donc il faut bien qu'il y ait un autre élément que le temps, on verra ça tout à l'heure. Dans l'épître de Jacques, au chapitre 4, verset 14, il dit « Qu'est-ce que votre vie ?» Il commence par une question. « Qu'est-ce que votre vie ?» « Elle n'est qu'une vapeur qui paraît pour un peu de temps et puis disparaît. » C'est important de reconnaître que nous sommes finis, nous sommes dans une finitude. Il y a des limites, les limites du temps. Ça s'inscrit dans ce chronos qui passe et où nous apparaissons et nous disparaissons. Donc l'un des prérequis, dans ce qui est requis au préalable, au départ, pour bien gérer notre temps, est de prendre conscience que nous ne sommes pas Dieu. Que nous ne sommes pas hors du temps. Et chacun de nous dispose d'environ 4400 heures par an et pas plus. Alors, je compte que les personnes se reposent 12 heures par jour. Alors, ce n'est pas le cas. Hein. Il y en a qui se reposent 4 heures, donc ils ont plus de temps. Il y en a qui dorment plus que 12 heures, je ne sais pas, des marmottes. Il y a des marmottes parmi nous. Et donc, voilà, c'est peut-être pas 4400, c'est peut-être 3800, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est compté, voilà. Et on ne peut pas tout faire dans la vie, et on ne peut pas tout avaler. Voilà, il faut le reconnaître, même si on le sait. Mais il faut que ça soit pris en compte au départ. Notre temps est compté. Le deuxième élément, donc ça c'est la première vision du temps. La deuxième vision du temps, c'est la vision de Dieu. La vision du temps vue par Dieu. Alors, est-ce que c'est du chronos? Est-ce que c'est ça? Il est hors du temps. Allô? Il est hors du temps. Alors, moi, j'ai appris quelque chose que j'aurais dû savoir. Je suis coupable, je suis désolé. En tant que scientifique, j'ai réalisé cet été, quand j'ai lu voilà, des ouvrages pour l'université d'été, d'ailleurs j'en ai parlé, que les hommes ont découvert, en particulier Einstein, que le temps n'existe pas. Et là j'aurais dû le savoir, parce qu'on me l'a appris, mais là j'ai réalisé l'importance de réaliser ça. Ah oui. Pourquoi ? Parce que si les hommes, dans la science, dans leur connaissance scientifique, donc c'est pas spirituel, c'est pas voilà, on n'est pas dans le spirituel, ils découvrent que dans l'univers, le temps n'existe pas, bah, ce serait peut-être bien qu'en tant que chrétien, moi, en tant que pasteur, je me mette ça dans le ciboulot. Parce que ça change tout. Quand on est convaincu de ça. Et comment est-ce qu'ils ont découvert ça ? Eh bien, c'est une révélation. Imaginez que les scientifiques reçoivent des révélations. Einstein, un jour, qui cherchait... D'ailleurs, son père a dit, il ne fera rien, ce petit-là, dans la vie. Il ne fera rien, il joue du violon, voilà. Enfin, bon, voilà, c'était son père, il a dénigré son fils. Bon. Parce que, voilà, il était peut-être, je ne sais pas ce qu'il était, mais elle dit, il ne fera rien dans sa vie. Eh bien, Einstein, un jour, il sort chez lui, sur le trottoir, il voit danser dans sa tête, il va danser dans son esprit, E égale MC2. Et E égale MC2, c'est quoi? Eh bien, c'est l'équation de l'énergie et de la matière, les deux qui sont équivalents, avec la célérité de la vitesse de la lumière, c'est la vitesse de la lumière, 300 000 km à la seconde, au carré. Et à partir de là, il s'est mis au travail, donc il avait cette révélation, et il a découvert la relativité générale, la relativité particulière, qui prouve que le temps n'existe pas. Alors comment ils ont prouvé ça? Ils ont dit, bon, bah, ok, d'accord, c'est peut-être une idée géniale, mais est-ce que c'est vrai? Bah oui, ils ont pris des montres, bien sûr, non, d'horloge électronique, ils ont pris des montres, ils ont mis une montre là, sur la chaise, puis ils ont pris une autre montre, ils l'ont mis dans un avion. Puis l'avion, ils l'ont fait tourner, et au bout d'un certain temps, il est revenu par terre, ils ont regardé les montres, bah, les heures, c'était pas les mêmes. Il y avait une différence. Et quand ils ont pris l'équation E égale MC2, ils ont vu que c'était exactement la différence. Leur équation était, c'est ça, les scientifiques, hein, ils vérifient concrètement. Eh bien, ils ont vu que l'équation était bonne, puisque c'était vérifié parfaitement par... Et ils ont fait ça 36 000 fois, et c'est toujours la même chose. Voilà. Et quand ils ont dit que si l'avion avait la vitesse de la lumière, eh bien, il n'y avait plus de temps. Le temps n'existe plus. Donc on prouve l'existence de Dieu par la science. C'est ça qui m'a frappé cet été quand j'ai découvert ça. Je dis, mais attends, la science prouve que Dieu existe. En tout cas, dans la particularité du temps, hein, je dis pas que Dieu existe, mais que la Bible qui dit que le temps n'existe pas pour Dieu, ben la science prouve qu'effectivement le temps n'existe pas. C'est-à-dire qu'il est relatif. Il est relatif pour nous parce que nous, on ne peut pas, on ne pourra jamais aller à la vitesse de la lumière puisqu'on a un corps. Voyez-vous, le corps ne peut pas, mais l'esprit, oui. Et Dieu est esprit. Il peut aussi être corps, mais il est esprit. Et donc ça, c'est une révélation pour moi, je vous la partage. Mais la Bible dit que le temps n'existe pas, et ça s'appelle l'éternité. Donc en fait, la science a prouvé l'éternité. Alors ça a beaucoup de ramifications, hein. Je ne vous fais pas les applications pratiques, j'en ai fait beaucoup en université d'été pour montrer l'application pratique qu'on peut faire de ça, qui nous aide à comprendre un peu mieux notre environnement et comment on doit gérer les choses. Mais ça, je ne le fais pas ce matin. Le temps, Dieu est hors du temps. Ce qui explique pourquoi il connaît votre passé, votre présent, votre futur. Pourquoi il est hors du temps? Il le voit, voyez. Nous, on est dans le chronos, lui, pas du tout. Ce qui explique tout facilement, on peut comprendre facilement que Dieu connaît tout, à l'avance, puisqu'il n'est pas hors du temps. Alors bon, après, ça fait réfléchir, mais la réalité, c'est ça. Dans Hébreux, au chapitre 1er, verset 10, il est dit « Dieu habite l'éternité ». Toi, dans les commencements, Seigneur, tu as fondé la terre, et les cieux sont les œuvres de tes mains. Eux, ils périront, mais toi, tu demeures. Ils vieilliront tous comme un habit, tu les plieras comme un vêtement. Ils seront changés, mais toi, tu es le même, et tes années ne cesseront pas. Et dans 2 Pierre, au chapitre 3, verset 8, il est dit, le temps du temps en général, car il est celui pour qui un jour est comme mille ans et mille ans sont comme un jour. Et dans Psaume 31,15, il a dit mes temps sont dans ta main. Mes temps sont dans ta main. Nous, on est dans le temps, Dieu est hors du temps. Et quand on remet notre vie dans les mains du Seigneur, eh bien, on est dans ce que Dieu a prévu pour nous, parce que ce qui nous arrive, c'est quelque chose qui est déjà fait, puisqu'il est hors du temps. Voyez, donc Dieu, il voit déjà ce qu'on va faire, parce que nous, on a besoin du temps. Hein. Voilà, on est sur une planète qui prend du temps, alors qu'en fait, pour Dieu, c'est déjà fait. Voyez. Alors bon, ça nous dépasse un peu, mais la réalité scientifique montre qu'effectivement, c'est quelque chose qui existe. Et c'est en Dieu. La troisième vision, donc ça, la vision de l'homme, c'est le chronos. La vision de Dieu, c'est hors du temps. Donc on n'est pas dans le chronos. La vision du 3, c'est le temps, j'appelle ça le temps d'une vision. Le temps d'une vision, c'est le kairos. Justement, Colette en a parlé, elle m'a précédé, mais ça prouve qu'elle a compris effectivement ce que c'est que le kairos. Le kairos, c'est l'histoire. C'est quand un événement rencontre le chronos. Il y a un chronos. Il se passe quelque chose. Vous rencontrez quelqu'un. Il y a un événement qui se produit. Il y a quelque chose qui se produit. Il y a une irruption de quelque chose. Ça, c'est le kairos. Vous voyez ? C'est-à-dire que, voilà, il y a un rendez-vous quelque part. Vous rencontrez le Seigneur, vous rencontrez quelqu'un, vous rencontrez. Et ça change le cours de votre vie. Ça change le cours de votre pensée. Ça change le cours de votre mentalité. Ça change. Vous voyez ? Et c'est ça qu'il faut saisir. Ça, c'est de notre fait. Dieu, il a tout prévu. Enfin, il a tout prévu. Tout est fait, je veux dire. Dans l'éternité, tout est fait. Le présent, l'avenir, le passé, le présent, le futur. Mais pour nous, on a besoin de le vivre. Dieu nous donne du temps. Alors, il y a des gens qui sont un peu plus rapides que d'autres, mais on a tous les mêmes secondes. Mais il y a des secondes, pour certains, qui durent plus longtemps que d'autres. Hein. Donc, nous le vivons d'une manière un peu différente. Mais nous sommes tous dans le temps. Mais c'est la vision... Notre vision, quelle est la vision du temps que nous avons qui va changer les choses. Dans Actes, chapitre 13, verset 36, il est écrit « David, après avoir, en sa propre génération, servi les desseins de Dieu, s'est endormi. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? David, après avoir servi les desseins de Dieu, s'est endormi. Ça veut dire Elsa. Les dessins, c'est quoi déjà les dessins? Voilà, c'est pas un dessin, hein, c'est avec E-I-N, les plans de Dieu. Pardon? Ouais. Bah disons que ça décrit l'état de l'homme, ça décrit notre état, ça décrit. On revient un peu au chronos, mais en même temps, on revient à une vision. C'est-à-dire David n'est pas simplement apparu et disparu. Mais il a servi les desseins de Dieu. C'est ça la vision. Donc, on arrive à la question de la vision. Est-ce que nous avons une vision pour notre vie et laquelle ? Donc, le dessein de Dieu, il est bien dit le dessein de Dieu. Il y a plusieurs desseins. Vous pouvez vous destiner à quelque chose, vous pouvez choisir de faire quelque chose, vous pouvez avoir une vision de faire quelque chose, donc vous pouvez avoir un plan, hein. Mais bon, on utilise plutôt dessin que plan, hein, bien que plan, tu as tout à fait raison Elsa de donner ce nom-là, mais le plan c'est déjà quelque chose qui est établi, hein, un plan, j'ai un plan pour ma vie, alors que le dessin c'est une intention. Voilà, c'est plus dans l'intention. Dieu avait une intention pour David, qui était d'en faire le roi d'Israël, hein, vous le savez, puisque c'est lui qui l'a désigné, et que quand le prophète a cherché, il a mis du temps à tomber sur le bon jeune homme, qui était d'ailleurs avec les moutons, et il a désigné, il a dit « c'est lui que j'ai choisi ». Donc, quand Dieu a dit à David « c'est lui que j'ai choisi », en même temps, Dieu avait un dessein pour David, qu'il a rempli. Vous savez que Dieu avait un dessein aussi pour Saül, mais il ne l'a pas rempli jusqu'au bout. Il est allé jusqu'à trois quarts, et après, il a lâché. Ça, c'est autre chose, ça, c'est la persévérance, c'est une autre enseignement. Là, c'est la gestion du temps. Pour bien gérer notre temps, il faut au départ savoir que nous allons servir un dessein. Servir un dessein. Et que ça donne du sens à notre vie. C'est le problème du sens. Est-ce que j'ai du sens ? Est-ce que Tom, tu as du sens à ta vie ? Alors, je sais que tu as du sens, donc je t'interpelle, mais je sais que tu l'as. Mais c'est ça qui est important. Est-ce que je connais le sens de ma vie ? Ça ne veut pas dire que je connais la fin de ma vie. Ça, c'est le chronos, parce qu'il faut du temps. Enfin, un certain temps, il faut, voilà, 100 ans pour les plus âgés, un peu moins pour les autres. On ne sait pas à quel moment on va partir avec le Seigneur. Notre temps est compté. Mais le dessein donne le sens, et nous pouvons suivre ce sens et pas suivre tous les sens. Parce que sinon, nous nous divisons nous-mêmes. Et donc ça, c'est le premier temps. Le temps d'une vision, c'est d'abord connaître le sens que Dieu a pour nous. David, après avoir servi, après avoir, en sa propre génération, vous voyez, donc on rencontre l'histoire, c'est-à-dire on place David dans son histoire. Aujourd'hui, David, il n'existe pas, hein, mais à son époque, et aujourd'hui, Lynn, dans sa génération, va servir les desseins de Dieu pour elle dans sa génération, dans le temps chronos qui lui appartient. Et ce n'est pas l'éternité qui lui appartient, c'est le chronos. Vous voyez. Donc ça nous ramène à une humilité par rapport au temps. Et une acceptation de ne pas être dans le déni. Servir le dessein de Dieu pour sa génération. Tout comme la nôtre, la vie de David a été une fleur, une vapeur. Mais elle a été utile pour Dieu dans son temps. Sa vie n'a pas été parfaite, vous voyez. Là, on ne parle pas de perfection de David. On parle du dessein, du plan qu'il a accompli pour la gloire de Dieu. Malgré ses défauts, effectivement, il a pu aller jusqu'au bout de ce dessein parce qu'il était resté dans l'humilité. Il n'a pas dit non, c'est pas vrai au prophète. Il a dit oui, c'est vrai. Vous voyez, sortir du déni, accepter, se repentir. Ça permet de rester dans le dessein de Dieu. Sinon, on en sort. Il a pu servir Dieu en son temps. Donc, le premier plan, c'est le premier élément de ce temps d'une vision, c'est savoir que Dieu a un plan pour nous, un dessein, et pour chacun de nous. Pour chacun de nous. Il n'y a pas les chouchous et pas les chouchous, ça n'existe pas. Dieu a un plan pour chacun, un dessein pour chacun. Deuxièmement, il faut avoir un projet de vie. Tout ça pour éviter la lutte frénétique du chronos. Parce que si le chronos, il fait ça... Ah, il ne fait pas de bruit, ça.
Ah oui, c'est parce que le micro, il... J'ai découvert quelque chose.
Je dis, mince, j'arrive pas. Voilà. Si c'est fait ça, et que je vais aller plus vite, hein, donc je vais me chronométrer, je vais dire, ah oui, maintenant, je l'ai fait en 10 secondes, je vais le faire en 2 secondes. En une seconde, et donc le stress, il augmente, il faut que tu sois performant, tout ça, voyez. Donc ça, c'est l'homme qui veut, parce que il a pas de vision de sa vie, donc il veut tout faire, quoi. Hein, c'était ma sœur, c'était comme ça, il voulait tout faire dans sa vie, hein. Et s'est pris le mur, hein. C'est pas évident, on peut pas. Donc pour éviter une vie de lutte frénétique contre le chronos, il faut avoir une vision. Une vision, c'est un temps orienté. C'est un temps orienté. Il est orienté vers le dessein. Ouais. Tout est orienté vers un dessein. Dans 1 Corinthiens 10, verset 31, qu'est-ce que dit Paul ? Il faut que nous fassions ceci ou cela, tatati tatata. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il rajoute comme dessein pour tout ce que nous faisons ? Quel est le dessein que nous devons servir ? Pour la gloire de Dieu. Dites-le. Dis à ton voisin, pour la gloire de Dieu. Fais-le pour la gloire de Dieu. Fais-le pour la gloire de Dieu. Ouais, c'est pas compliqué, vous savez tous ça. Mais encore faut-il se le rappeler. Fais-le pour la gloire de Dieu. Ne le fais pas pour être plus performant. Ne le fais pas pour ceci, pour cela. Pour la gloire de Dieu. Jean-Sébastien Bach, que j'admire beaucoup, mais bon, il est admiré par tout le monde comme le plus grand musicien de tous les temps. À chaque page, il mettait « Soli Deo Gloria ». En latin, « À Dieu seul soit la gloire ». C'est pour se rappeler que tout ce qu'il faisait, c'était pour la gloire de Dieu. Et il est allé jusqu'au bout, son dessein. Et il a eu 24 enfants, hein, de deux femmes. Oui, de deux femmes, hein, mais bon, 12 par femme, c'est quand même pas mal. Hein, bon. C'est à peu près 12 par femme. Hein, parce qu'il y en a une qui est morte. Bon, elle n'est pas morte à cause des enfants, mais je ne sais plus. des maladies à l'époque. Donc il s'est remarié, il a refait 12. Il y a quand même 10 qui sont morts. Hein. Bon, à l'époque, oui. Maladie infantile, enfin 10 ou 9, enfin ce quoi cela. Mais il paraît que ces partitions, hein, qui étaient des partitions comme ça, parce que voilà, hein, quand il y a tout un orchestre, il faut que chacun suive sa partition. Les plus grandes œuvres qu'il a écrites, le Requiem, machin, etc., c'est quand il avait tous les enfants sur ses genoux. Moi, je ne pourrais pas. Honnêtement, je ne pourrais pas. Il faut que je sois concentré. Je veux dire, il a reconnu que c'est la gloire de Dieu. Vous voyez, c'est pas donné à tout le monde, ça. C'est bon, mais il l'a reconnu. C'est-à-dire qu'il n'était pas orgueilleux en disant oh, moi, je suis le grand maître, je vais tout faire. Non, non. Soli Deo Gloria. À Dieu seul la seule gloire. C'est ça notre attitude qui permet d'identifier le dessein et de rester dans le dessein jusqu'au bout. Que tout soit fait pour la gloire de Dieu. Donc orienté sur le dessein et sur la gloire qui revient à Dieu. Et c'est normal puisqu'on était fait pour la gloire de Dieu. Dieu nous a fait pour le glorifier. Donc tout revient, tout vient de Dieu, tout revient à Dieu. Cette vision du temps, cette vision de la vie, eh bien, va nous aider à ne pas subir notre vie. Il n'y a rien de pire que de subir sa vie, mais à choisir notre gestion du temps en fonction de ce qu'on appelle ici la vocation. Vous avez déjà entendu parler de la vocation ? Alors là, ce n'est pas du grec, c'est du latin. Vocare, je crois, ou vocare. C'est notre appel. C'est aussi un autre mot que vous entendrez beaucoup à RNC. Je sais que Jean-Marc Potentier utilise beaucoup. Notre appel. Abraham a été... Encore une fois, Abraham a été... Par... C'est l'appel. Il a suivi l'appel. Il aurait pu se dire, oh, tiens, le Canada, c'est beau, je vais aller là-bas, etc. Bon, ou Canaan, c'est beau. Non, non. Dieu lui a dit, je t'appelle. Il a appelé, il a entendu. Dieu a dit, voilà, je te demande de sortir de ta famille, de te diriger par là-bas. Tu ne connais pas, à l'époque, il n'y avait pas les voyages touristiques comme maintenant, donc il ne pouvait pas imaginer ce que c'était. Il a dit, je t'appelle là-bas, tu vas là-bas. Et c'est là-bas que je te donnerai ce pays. Il a suivi l'appel. Et tous, nous avons un appel. Dis à ton voisin, tu as un appel. Tu as un appel. Tu es appelé. Le tout, c'est de l'identifier. Et ce que je vous conseille, pour bien gérer votre temps, hein, je reste dans la gestion du temps, parce qu'on est tous stressés, hein, on est tous... Hein, eh bien, si vraiment vous n'êtes pas sûr de votre appel, ben, cherchez-le jusqu'à ce que vous le trouviez, et ne laissez rien passer, pas une heure passée, en demandant à Dieu, parce que Dieu va vous le montrer. C'est votre première identité en tant que personne humaine, c'est de connaître votre appel. Je suis désolé. Ça commence par là. Cherchez votre appel, mais pas ce que vous dit votre voisin ou votre voisine hein, sur votre appel. Hein. Bon, ça peut confirmer, infirmer, tout ça. Mais vous, ce que vous savez, que Dieu vous a appelé à un dessein particulier sur cette terre. Et à partir de ce moment-là, votre vie va changer dans la gestion du temps. Vous êtes d'accord ? D'accord, Lynn ? Elle dit tout le temps Amen. Mais je sais qu'elle le croit. Quand on le vit, on dit oui, c'est ça. Waouh ! C'est bon. Prenez le temps de réfléchir à ce que nous voulons faire de notre vie. Et c'est ce que moi j'ai fait hein, pour cette église. Hein. Vous êtes de passage, moi aussi. Il y en a qui sont passés, vous voyez, ils reviennent, ils témoignent de ce qu'ils ont vécu dans cette église. Merci Seigneur. C'est pour la gloire de Dieu. Hein. Mais... Depuis 1998, les choses ont changé ici, parce que avant, on suivait une règle d'église. Voilà, on est une église. Voilà, on a dit on est une église. Moi, je le crois. Bon, etc. Mais en 1998, on a dit non. On met tout à zéro. On veut savoir pourquoi on est là. Pourquoi Dieu nous a appelés ici au Bergerville ? Pourquoi ? Il n'y avait rien. Pourquoi tu nous appelais ici? Pourquoi tu nous appelais dans ce local? Pourquoi? Voilà, tout un tas de pourquoi. Et pendant 10 ans, on s'est posé la question. Jusqu'à ce qu'on trouve. L'appel, on le savait, c'était l'appel des familles, ok, mais la vision a été plus floue. Et on s'est attelé. Moi, je me suis attelé tous les jours jusqu'à ce que je trouve la vision. Et la vision, en fait, aujourd'hui, bien sûr, pour moi, c'est simple à vous l'expliquer parce que je l'ai incarné. Mais il y a quelqu'un qui le dit très bien, c'est Simon Sinek, dont Olivier est fan, parce que c'est un communicateur, et moi, je ne suis pas communicateur, vous l'avez déjà compris, mais bon, je fais du mieux ce que je peux. Je compte sur les autres pour m'aider à communiquer. Mais j'ai compris ce que c'est que la vision. Parce que je la vis et que je vois les effets de cette bonne vision. Alors, rien qui dit, c'est compliqué. Et en fait, si vous écoutez Simon Sinek, c'est très simple. Hein, c'est le why, en anglais, pourquoi. C'est le how, comment. Alors là, on ne fait pas du grec, on fait de l'anglais, vous voyez. Et on fait du what. C'est quoi. Ou lequel, ou voilà, enfin, tout dépend. C'est vrai, l'anglais est plus pratique, donc le what, c'est plus facile à utiliser que le quoi, qui renvoie à d'autres notions. Enfin bref, c'est ça, la vision. On rapproche un petit peu. Vous voyez tous les trois cercles ? Pardon ? Ok. Ce que je viens de vous dire, c'est que le dessein, il est là. Le dessein de Dieu. Pourquoi ? Parce que Simon Sinek, c'est vrai qu'il dit officiellement qu'il n'est pas chrétien, mais bon, j'ai des doutes là-dessus, parce que ses valeurs sont trop connotées. Chrétienne, et bon, il a un arrière-plan chrétien. Bref, on l'a écouté avec Olivier et Samuel en Angleterre avec les cours Alpha. Et donc, lui, il ne parle pas de Dieu, mais il parle du why, how, du what. Et si vous appliquez ça à ce que je viens de dire, quelle est la vision de notre vie ? Eh bien, on sait que le pourquoi on est là, eh bien, c'est de Dieu et on est inspiré. Inspiré, expiré, inspiré, expiré. On est inspiré, 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 expiré. C'est quand même deux choses différentes. Mais vous savez, les mots renvoient des réalités. Et quand vous lisez dans Genèse chapitre 2, verset 7, eh bien, vous voyez l'inspiration. L'inspiration, c'est-à-dire la nature de l'homme, de quoi est fait l'homme. Quand vous lisez ce passage de Genèse, où pendant tout le chapitre 2, Dieu explique comment il construit l'homme, comment on était fait, comment on était fabriqué. Il est dit que l'Éternel, Dieu, forma l'homme de la poussière, du sol, donc c'est la matière, et il insuffla dans ses narines un souffle vital. Il insuffla dans ses narines, c'est le souffle de Dieu, c'est le Saint-Esprit, c'est la puissance du Saint-Esprit qui souffle en nous, ça vient de l'extérieur. S'il y a quelque chose qui ne vient pas de l'extérieur, on est tout seul. Hein. On est livré à nous-mêmes. C'est ceux qui ne sont pas en Christ, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils sont livrés à eux-mêmes. Et parfois, ils sont plus sages que nous. La preuve, c'est qu'ils nous donnent des leçons. Ça, c'est une leçon officiellement de quelqu'un qui ne se dit pas chrétien. Hein, je dis bien ça. Voilà, il ne confesse pas Jésus-Christ. Bon. Mais la Bible dit que le pourquoi nous sommes là, c'est parce qu'il vient de Dieu. Que ce soit pour notre vie, que ce soit pour notre vie physique, hein, puisqu'elle est insufflée, mais aussi pour notre vie spirituelle et notre vie tout court, psychique, animale, nous sommes animés, nous animons voilà, notre famille, nous animons notre travail, nous sommes animés, nous faisons. Voilà, toute cette vie-là, eh bien, elle doit avoir un plan, un pourquoi. Pourquoi je suis là, voyez. Et ça, c'est le dessein, c'est l'appel de Dieu pour moi. Alors si lui, Simon Sinek, il a compris que les grands leaders qui inspirent l'action, qui inspirent une action positive, ils commencent tous par le why, how, what. Voilà. Ça, c'est les grands leaders qui inspirent l'action. Martin Luther King et d'autres qui citent, hein, il a vu qu'ils expliquent tous le pourquoi ils sont là. Eh bien, c'est les grands leaders. Et les suiveurs, tous les suiveurs, et c'est la majorité de tous les humains, ils font l'inverse. Tous les suiveurs. Alors, est-ce que vous voulez être un leader ou un suiveur ? La différence. La vision, elle est là. Il y a trois éléments. Il y a le pourquoi, le comment et le quoi. Leader. Leader, c'est quelqu'un qui avance et qui entraîne des gens. Pardon ? Suiveur ici ? Tu veux savoir ce que c'est ? Non, le suiveur, c'est quelqu'un qui, dans sa vision des choses, commence par le what, le how et le why. Le leader commence par le why, le how et le what. C'est-à-dire que le leader qui inspire une action, déjà la sienne, mais à suivre des gens derrière, quand il regarde derrière lui, il voit qu'ils suivent. Ce n'est pas un dominateur, ce n'est pas un chef. C'est pas quelqu'un qui un tyran qui dit il faut me suivre. Non, c'est la différence entre leader et chef. Dans l'Église, il n'y a qu'un seul chef, c'est Christ. Il n'y a pas d'autre chef. Oui. Par contre, il y a des leaders. Et les leaders, ceux qui inspirent les autres à suivre leur appel et à rentrer dans leur destinée, puisque l'appel c'est le destin. Prédestiné. Et la fin, le what, c'est la destination. Vous arrivez à destination. Si vous voulez aller à Marseille, je vous invite à prendre le TGV qui va à Marseille. Si vous voulez aller à Lille, vous allez à Lille. Mais si vous voulez à Marseille, vous rentrez dans le TGV qui va à Lille, il faudra reprendre dans l'autre sens. Voyez. Donc il ne faut pas s'étonner que vous êtes au mauvais endroit. Donc la destination qui est là, et là, c'est la destinée. Dieu a une destinée, un dessein pour vous, mais il faut commencer là et aller par là, et pas de là à là. Or, il y a des chrétiens encore aujourd'hui hein, qui me disent « Ouais, mais ta vision est trop compliquée, machin, etc. » On veut la même vision que toutes les autres églises. Je sais bien que les autres églises, ils copient sur le monde. Et le monde, qu'est-ce qu'ils vous présentent ? Ils vous disent Ah ! Par exemple, le monde, je prends un exemple, hein, Darty vous dit, nous on a les meilleurs prix, nous on a les meilleures cocottes minutes, nous on a les meilleurs appareils four à micro-ondes, nous on les meilleurs. D'ailleurs, si vous trouvez moins cher, on vous rembourse. Qu'est-ce qu'ils font ? C'est le what. Hein ? Ils vous attirent par le what. Et les églises, ils font ça. Ils disent, nous, on veut conquérir Aubergenville. Nous, on veut qu'on ait la meilleure école du dimanche, que tout le monde vienne chez nous. On a le meilleur groupe de jeunes, que tous les jeunes viennent chez nous. On veut ceci. Ça, c'est facteur de stress, hein, au final. Pour être le meilleur, ça veut dire qu'il faut passer plus de temps, il faut être plus compétitif, machin, etc. Vous voyez toutes les conséquences. Nous, on veut le meilleur. Et nous, on avait un chrétien qui nous a aidés à sortir d'affaires, hein. Marie-France, elle rigole, elle le connaît. Il nous a coaché comme ça, Michel et moi. Ah, maintenant il faut la meilleure école du dimanche. Maintenant il faut. Je dis, mais on a le droit de respirer ? Hein ? Voilà. Non, mais bon, il avait beaucoup de qualités hein, par celle-là. Mais bon, parce qu'il était drivé, il était motivé par. Faut que l'église de Marjorie soit la meilleure. Il faut qu'elle rayonne, il faut qu'elle montre, voilà, tout ce qu'elle est capable de faire, patati patata. Ok, mais qui fait ça ? Qu'est-ce qui fait ça ? C'est nous ?
gestion du temps, bonjour les dégâts, il faut qu'on soit au four, au moulin, les jeunes, les, vous voyez, si vous commencez par le what, ok, mais Dieu ne demande pas ça. Philippiens, et je termine là-dessus, et j'ai fait qu'un quart de message, mais ce sera la suite dimanche prochain, donc si vous voulez la suite, il faut venir, ou vous écoutez l'enregistrement. Philippiens 2.12. Moi, ça m'a toujours frappé. Michel, quand je l'ai rencontré, on était fiancés, j'ai dit, mais écoute, je comprends pas, Philippiens 2, 12 et 13, explique-moi de ça. Il m'a toujours trotté ce verset-là. Ah, maintenant, je le comprends, mais j'ai mis 50 ans à le comprendre. Vous voyez, comme quoi, révélation, parfois, c'est tardif. Il dit, mettez en œuvre votre salut, ou travaillez à votre salut. Bon, je préfère mettez en œuvre votre salut. Verset 12. Et verset 13, il dit quoi? Car c'est Dieu qui met en vous le vouloir et le faire. Je dis, mais attends, c'est quoi ça? Alors, il faut travailler et c'est Dieu qui fait tout? Eh bien oui, c'est la coopération avec Dieu. Cette coopération avec Dieu vient du fait que si vous laissez Dieu vous inspirer ici, eh bien c'est lui qui va faire. Si vous voulez faire, c'est vous qui allez vous épuiser et Dieu sera mis de côté. Ouais. Si vous faites ça, vous apportez la gloire à Dieu. Soli Deo Gloria. Est-ce que vous reconnaissez que vous suivez l'appel, que vous faites ce qu'il faut, effectivement, vous arrivez au what, à un moment donné, quoi faire. Mais vous n'allez pas vous épuiser, ce sera la suite du message, comment ne pas s'épuiser, comment gérer son temps, comment faire les priorités, comment organiser ce machin, etc. Mais ça commence par le centre. Voyez. Et donc, c'est ça la vision. Et notre vision, c'est quoi? Vous allez voir sur le prochain site internet, j'ai essayé de le simplifier, le why, c'est nous sommes, ou nous voulons être, une communauté d'hommes libérés dans toute leur personnalité. Nous voulons être. Nous ne sommes pas. Nous voulons être une communauté d'hommes libérés de leur personnalité. Donc notre personnalité, nous savons que nous en avons une, mais elle n'est pas encore développée. Donc on veut la laisser développer, et que Dieu a ce plan-là pour nous. Donc si on le laisse faire, eh bien on sera dans son plan. Donc on rentre dans la vocation, la vision que Dieu a pour nous. C'est simplement ça, l'appel de Dieu pour nous. Deuxièmement, le comment, c'est la mission. Jésus a dit dans Acte 1, verset 7, « Restez ici jusqu'à ce que vous receviez la puissance du Saint-Esprit et vous serez mes témoins. » Donc, le « how », c'est être témoin de la puissance de Jésus-Christ. Mais pas de pression sur comment y arriver avec une Rolls-Royce, avec un avion à réaction. Non, c'est simplement être témoin par la puissance du Saint-Esprit. Et le what? Bah, tous les jours, Dieu ajoutait à l'Église les uns et les autres. Fantastique, ça se fait tout seul. Et là, on rejoint Christian Schwartz, que je vous indique aussi comme livre de chevet, hein, deux livres de chevet. C'est Théologie de l'Inde et Christian Schwartz, qui explique ça parfaitement, magnifiquement, que la croissance de l'Église, elle est naturelle. On ne tire pas. Vous n'avez jamais tiré sur un arbre pour que, là en ce moment, il y a les pommes qui poussent, vous ne tirez pas pour les faire pousser. Bon. Donc ça ne parvient pas à l'être humain de faire des choses impensables sur le plan biologique, sur le plan spirituel, il veut le faire. Il veut tirer. Non, ça pousse naturellement, ou ça ne pousse pas. Deux choses l'une, ou ça vient du Saint-Esprit, ou ça ne vient pas. Donc vous occupez pas des fruits, les fruits c'est des fruits. Donc les fruits c'est le what, ce sont des fruits. Ici ce sont des fruits de ce que vous avez compris, de ce que vous êtes rentré là-dedans, de ce que vous laissez faire le Saint-Esprit, et vous verrez les fruits. Donc ici c'est la mission, c'est établir des communautés d'hommes libérés, c'est prier, adorer et évangéliser, point barre. Et ici, c'est voir des familles changer, voir une église accueillante, voir une école de formation de disciples qui marche, voir la société changer et transformer. Mais ce n'est pas nous qui faisons, c'est Dieu qui fait, parce que nous rentrons dans ses plans, dans son dessein. Amen. Voilà. On continuera la suite de la gestion du temps la semaine prochaine. Seigneur, merci de tes enseignements dans ta parole qui sont clairs. C'est nous qui les compliquons, c'est nous qui, Seigneur, les amenons à les inverser, parce que le monde
est tellement puissant qu'il nous empêche de voir ton plan à toi, Seigneur, et ta démarche, comment toi tu fais. Alors, Seigneur, pardon pour ces mauvaises compréhensions et que tu puisses nous aider à changer, Seigneur, notre vision du temps pour que nous ne nous épuisions pas, mais que nous puissions simplement faire ce à quoi tu nous as appelés. Te prions au nom de Jésus.